Ouais, je le vois dans les premières réactions des lecteurs. C'est vrai que quand on prend un livre en main, on regarde un peu la couverture, la quatrième couverture, puis après on feuillette. Puis l'avantage des dessins, c'est qu'on peut s'arrêter très vite, regarder un bon coup et rigoler. Et en général, ça engage et ça donne envie d'aller un peu plus loin. Et c'est donc je crois que ça fonctionne bien pour l'instant. En tout cas, on a fait un vernissage. Les gens ont eu beaucoup de commentaires positifs sur les dessins de Pierre Mazem.
C'est justement un livre qui a été lu et approuvé par la Société suisse de pédiatrie.
Oui. Ce qui n'est pas chose facile,
justement. C'est pour ça qu'on vous pose la question.
Alors c'est un livre qui est fait pour le marché suisse, mais français et belge aussi. Et puis c'était pas seulement pour essayer de toucher un public plus large, mais aussi parce que rien que pour un lecteur suisse, par exemple, dans les petites italiques où on donne quand il y a des différences de pratiques ou de recommandations de sociétés de pédiatrie d'un pays à l'autre, on pensait que c'est intéressant aussi pour le lecteur suisse de savoir les Belges ils recommandent pas tout à fait la même chose, puis les Français non plus, parce que ça donne aussi un peu d'ouverture et ça permet de se rendre compte que c'est pas une science exacte et que d'un pays à l'autre, il peut y avoir des changements de pratiques. Je parle pas d'un continent à l'autre où là on a aussi des anecdotes qui disent pas mal de choses sur la puériculture quand on se rend compte des différences de pratiques entre l'Europe et l'Asie ou l'Afrique ou l'Amérique du Nord.
Moi j'ai bien aimé dans votre livre c'est justement ces différences culturelles avec ces petits encarts. Il y a les Kunga, une population africaine où les bébés ne pleurent pas. Jamais, ça c'est le rêve de tout parent, non?
Alors voilà, ça c'est des peuples qui ont fait l'objet d'études anthropologiques et leur comportement face au bébé a fait l'objet d'analyses poussées parce qu'effectivement c'est des enfants qui sont portés tout le temps qui têtent aussi à la demande mais de manière extrême, si vous voulez, c'est quasiment toutes les 30 100 secondes,
100 fois par jour,
voilà. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on n'a jamais en tout cas ceux qui ont étudié les Kung n'ont jamais constaté de coliques. Et donc c'est quand même pour montrer qu'il y a visiblement un lien quand même entre la proximité du bébé et de sa mère ou de son père et les pleurs.
Alors ces habitudes sur l'alimentation en Afrique ou encore au Japon, sur les habitudes du sommeil, en fait ça aide un peu les parents à relativiser.
Bien sûr, c'est vraiment l'objectif, hein, parce qu'on est dans un domaine où ça peut être très culpabilisant quand on devient parent et qu'on entend toute une série de conseils et qu'on se rend compte que son bébé pleure ou qu'on se demande beaucoup si on fait juste ou pas. Et pour moi, au-delà de donner des informations factuelles, mais c'est une des conséquences aussi, quand on arrive à séparer le fait et de l'opinion, je crois, on permet de déculpabiliser les parents un petit peu, quand on sait qu'il se passe autre chose ailleurs, au Japon, il y a un régime qui utilise quasiment pas le lait, donc c'est par d'autres moyens que les enfants se procurent le calcium. Ça veut pas dire que c'est pas important, parce qu'ici, la recommandation c'est le lait, parce que c'est dans notre pratique, dans notre culture, donc évidemment qu'il faut suivre les recommandations du pédiatre. Mais c'est juste une manière de s'ouvrir un peu l'esprit, de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire aussi.
Si votre livre est réédité dans quelques années, est-ce qu'il y a des chapitres que vous aimeriez pouvoir écrire différemment? Autrement dit, est-ce qu'il y a des éléments qui, pour vous, devraient changer dans notre rapport à l'arrivée d'un bébé?
Pour l'instant, je suis encore trop proche de ce livre-là. Je l'ai pas encore relu entièrement depuis qu'il a été publié, donc j'ai pas de recul. Je suis sûr que dans un an, j'aurai plus d'idées. Mais non, je suis pas dans un mode militant. Donc, je pense vraiment que c'est assez immuable. Hein, les 7 chapitres qu'on a posés là, qui vont de l'alimentation au sommeil, à l'hygiène, à la santé ou à la vie pratique. Bien sûr qu'il y aurait des petites choses qui changeront, mais il y a un petit chapitre sur le père et la mère, c'était juste pour vraiment, il y a une volonté aussi de faire ce livre à égalité, donc c'est pas un livre, il se trouve qu'il est écrit et dessiné par deux pères, mais c'est pas un livre pour les pères, c'est un livre pour les deux parents. À aucun moment on s'adresse à l'un ou à l'autre, sauf dans allaitement, c'est quand même important de préciser.
De parler à la maman, oui.
Ouais, quand même, hein. Éviter les erreurs, les malentendus. Mais ouais, je pense que c'est une des caractéristiques de notre époque, c'est qu'on a envie de choisir soi-même, de la répartition des rôles, donc faut pas qu'un livre commence à nous cantonner dans des rôles. Et là, il y a beaucoup de livres quand même aujourd'hui qui parlent soit à la mère ou alors au père, parce que c'est des livres un peu, des nouveaux livres, un peu le guide du papa débutant, des choses comme ça.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Ils ont 2 et 4 ans. Elles ont 2 et 4 ans.
D'accord. Bon. Donc c'est encore en pleine actualité pour vous.
Voilà, et puis on ne sait jamais.
Ah oui, peut-être encore d'autres actualités à venir.
Vous avez des scoops à annoncer?
Du tout.
Cyril Yost, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu dans Format A3 ce matin. On mettra toutes les informations sur le blog à propos de ce livre, donc L'essentiel sur les bébés, à offrir largement autour de vous à tous ceux qui attendent des bébés. On en connaît quelques-uns. Ça est paru aux éditions Loisirs et Pédagogie. Belle journée.
Merci.
Belle journée.
À bientôt.